Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Dans Émotion, on aime aborder tous les sujets qui vous touchent, dont un qui revient souvent est la confiance en soi. Saviez-vous que l'acné arrive en tête des complexes physiques chez les femmes comme chez les hommes? Et l'acné à l'âge adulte peut saper toute confiance en soi. Si vous êtes dans ce cas, je voudrais vous parler du sérum acide salicylique anti-imperfection de Caudalie, notre sponsor en ce moment. Ce sérum de la gamme Vino Pure, c'est la solution naturelle des peaux à tendance acnéique qui améliore la qualité de votre peau avec deux fois moins de boutons dès une semaine. Le sérum combine un trio d'actifs puissants, naturellement efficaces pour lutter contre les imperfections. Acide salicylique, niacinamide et polyphénol. Retrouvez une belle peau pour vous lancer en toute confiance dans tous vos prochains projets. Merci à Caudalie pour leur soutien et bonne écoute.
Louis.
Dans La vraie vie, le premier roman de l'écrivaine Adeline Dieudonné, une enfant de 10 ans essaie de construire une machine à remonter le temps pour redonner le sourire à son petit frère, Gilles. Depuis qu'ils ont tous les deux été témoins d'une explosion meurtrière, le comportement de Gilles a changé. Il ne parle plus, garde les yeux dans le vague et fait des cauchemars la nuit. Dans une pièce de la maison, de nombreux animaux sauvages empaillés sont exposés par le père des deux enfants, chasseur et taxidermiste. La sœur de Gilles appelle cet endroit « la chambre des cadavres ». Un soir, elle y trouve son frère qui chuchote à l'oreille d'une hyène. Adeline Dieudonné écrit « Et si le choc de l'explosion du siphon de crème avait ouvert un passage dans la tête de Gilles ? Et si la hyène était en train de profiter de ce passage pour aller habiter dans mon petit frère ? Ou pour y infiltrer quelque chose de maléfique. Cet air-là, ce que j'ai vu sur le visage de Gilles, ça n'était pas lui. Ça sentait le sang et la mort. Ça m'a rappelé que la bête rôdait et qu'elle dormait dans ma maison. Et j'ai compris qu'elle vivait désormais à l'intérieur de Gilles. Il est évident que l'explosion à laquelle a assisté Gilles est ce qu'on appelle un traumatisme. Mais bien au-delà du moment précis de ce choc émotionnel violent, le personnage de Gilles est transformé. C'est ce passage dans sa tête, évoqué par le personnage de sa sœur, cette bête, qui vit désormais en lui. Ces métaphores, elles illustrent bien ce que peut être le stress post-traumatique. Dans cet épisode, la journaliste Antonella Francini explique les mécanismes du stress post-traumatique et cherche à comprendre pourquoi le corps n'oublie pas les traumas. Attention, dans les témoignages recueillis, il est question de viol et d'attentats. Ces récits peuvent être difficiles à entendre et je vous recommande de les écouter dans des conditions adaptées à votre sensibilité. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
Il y a quelques mois, alors que j'étais encore journaliste correspondante au Mexique, un média me propose de faire un reportage dans une des régions les plus dangereuses du pays. Cette zone est en proie à une guerre sanglante entre cartels de la drogue qui fait des centaines de morts chaque année. J'hésite, mais je décide d'y aller. Je me dis que ça fait partie du boulot. Et puis la presse internationale s'est déjà rendue sur place. Pourquoi il m'arriverait quelque chose à moi ? J'arrive un peu avant 7 heures du soir. Le Uber qui vient me chercher me dit qu'il a hésité à venir. Normalement, il rentre avant la tombée de la nuit. Dans la plupart des quartiers, les rues sont désertes. Les seules personnes qui sont encore dehors, ce sont les militaires, lourdement armés. La nuit, il n'est pas rare d'entendre des coups de feu. Sur place, les journalistes qui couvrent l'actualité locale sont menacés et certains ont même été tués. Ils me racontent ce qu'ils vivent au quotidien. Ils me montrent les photos des corps mutilés, abandonnés à même le bitume. Je parle avec des habitants dont le frère, le cousin ont été assassinés. J'ai une interview de prévu avec un politicien de la région. Au Mexique, il n'est pas rare que les politiques soient corrompus parce que les cartels de la drogue ont infiltré toutes les sphères du pouvoir. Finalement, cet homme me donne rendez-vous dans un endroit assez isolé. Il se plaint des propos de mes confrères et consœurs de la presse internationale. Je me sens menacée et j'imagine le pire à chaque instant. Je sens mes jambes se dérober, j'ai le souffle coupé et l'estomac noué. Les semaines qui suivent, je commence à avoir des crises de panique et je fais des cauchemars. Je n'arrive plus à me concentrer, je ne parviens pas à écrire mon reportage. Pendant les soirées avec des amis, j'ai l'impression que je suis éteinte, absente. J'ai peur d'être seule chez moi. Je ferme les portes à double tour et je guette tous les bruits. J'en parle à mon psychologue et il ne tarde pas à poser un diagnostic. Je suis en état de stress post-traumatique. Et là, j'ai du mal à y croire. Pourtant, ma mère est psychologue. Je connaissais plus ou moins la définition de ce syndrome. Mais dans l'imaginaire collectif, la représentation des symptômes est souvent très spectaculaire, ce qui n'aide sans doute pas au diagnostic. Je pense au premier épisode de la série Peaky Blinders. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça se passe dans les années 20 à Birmingham, une banlieue ouvrière de Londres. Lors de la Première Guerre mondiale, beaucoup de soldats anglais se sont battus en France et ont connu les tranchées. C'est le cas du personnage de Danny. Un soir, alors qu'il est pris d'une crise d'angoisse, il déboule dans un bar, hurle à la mort, il se jette sous les tables. On comprend que dans son corps et dans sa tête se rejoue la guerre des tranchées. Dans un accès de panique, il finit par poignarder le serveur d'un restaurant, en pleine rue. Selon la définition de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, le syndrome du stress post-traumatique est un trouble psychiatrique qui survient après un événement traumatisant. Il se traduit par une souffrance morale et des complications physiques qui altèrent profondément la vie personnelle, sociale et professionnelle. L'événement est réactivé par des déclencheurs et la personne est confrontée encore et encore à son trauma, comme si elle y était. Je pensais que ça n'arrivait qu'aux militaires ou aux victimes d'attentats. J'avais la vague idée que ça pouvait arriver aux victimes de viol. Mais en faisant mes recherches, j'ai découvert que des accidents de voiture, la perte d'un emploi, un divorce ou un accouchement difficile peuvent causer un stress post-traumatique. Alors je me suis demandé, dans quelle mesure un trauma s'inscrit-il dans notre chair et se manifeste-t-il physiquement? Comment le traumatisme peut-il s'inscrire et marquer profondément notre corps alors que c'est une blessure psychique et que tout se passe avant tout dans notre tête? Le soir à l'hôtel, après mon reportage, j'ai relâché la garde et je me suis effondrée. Après une douche, je me suis allongée et j'ai regardé des séries sur Netflix en espérant me changer les idées. Mais mon corps était presque tétanisé. Je n'arrivais pas à me calmer. J'avais envie de mettre des meubles devant la porte pour me protéger. J'en ai pleuré. C'était ma première crise de panique, mais je ne m'en suis rendu compte que quelques semaines plus tard, quand mon psychologue a posé le diagnostic de stress post-traumatique. Les semaines qui ont suivi, j'ai refait des crises. J'étais tétanisée, je pleurais. Comme si la terreur était gravée dans mon corps. Comme si c'était lui qui en avait la mémoire. Une image m'est très vite revenue à l'esprit. Celle d'une BD sur laquelle j'étais tombée par hasard lorsque je travaillais dans une rédaction et que j'avais lue sur un coin de bureau. Cette BD, c'était La Morsure de Fred De Wilde. Fred a 55 ans et il est l'un des rescapés des attentats du Bataclan. Dans sa BD, il raconte les mois qui ont suivi le 13 novembre 2015. Pour Fred, la morsure cristallise le trauma sous toutes ses formes.
Pour moi, c'est l'image du poison qui a été inoculé, ou d'une maladie qui peut revenir. On sait le l'endiguer, mais on ne sait pas le guérir. Et si on arrête de l'endiguer, bah, ça revient avec autant de force. Et le trauma, c'est vraiment ça. Il y a des moments où on peut aller mieux, et puis on ne sait pas pourquoi. Il y a un événement qui se passe, et ça revient.
Dans les premières planches de sa BD, Fred dessine une marque noire sur son bras, comme une tache d'encre. À ce moment-là, il est en vacances à la campagne avec sa famille. La tache est minuscule, presque invisible. Mais lors des attentats de Nice, en juillet 2016, le trauma du Bataclan est ravivé. La tache se répand peu à peu sur son corps. Parfois, cette marque coule sur le sol. Elle souille son environnement, comme si la terreur contaminait tout. En repensant à cette BD, il m'a semblé évident que Fred dessinait son stress post-traumatique. J'ai eu envie de le rencontrer. Il m'a invité chez lui, dans son appartement parisien au début du mois de janvier. Un espace suspendu dans le temps, avec un léger parfum de cigarette et de café.
Il y a 2 ans, j'ai fait des cauchemars absolument, mais vraiment terribles. J'ai rêvé que je me faisais poursuivre par une horde de djihadistes zombies. Dit comme ça, ça peut paraître comique. Dans mon rêve, c'était absolument pas comique. Je me suis réveillé en panique complète. Bah, c'est ça la morsure. Vous savez pas exactement à quel moment le poison va ressortir. Vous savez pas pourquoi, mais en tout cas, il est toujours là, il est toujours en vous. C'est un véritable poison. Un poison qui vous amène à des sentiments sur vous-même ou sur la société, un peu délirants, qui vous donnent envie de crever, qui vous donnent l'impression que vous n'êtes plus rien, alors que vous avez juste subi une attaque terrible.
L'attaque terrible dont parle Fred, c'était le soir du 13 novembre 2015. Cette nuit-là, 3 terroristes pénètrent dans la salle de concert du Bataclan, dans le 11e arrondissement de Paris. Ils ouvrent le feu sur le public, qui assiste au concert du groupe de rock Eagles of Death Metal. Fred était dans la fosse à ce moment-là.
Je crois que j'ai entendu les bruits de tirs avant de voir les gens s'allonger par terre, enfin sauter par terre. Le premier vrai souvenir que j'ai, c'est que je suis assis sur les gens et je vois les gars qui sont en train de tirer sur la foule. Et je ne veux pas comprendre ce qui se passe. Et là, je me souviens très très nettement avoir vu quand même une ou deux rafales et me dire peut-être qu'il faut que tu t'allonges. Et là, je me suis allongé sur des gens. Il y a eu ce moment de battement où visiblement ils ont rechargé et la foule s'est relevée. Du coup, je me suis retrouvé en queue de foule au milieu des gens qui étaient très clairement en train de fuir, qui ressentaient vraiment la peur. Et j'ai trébuché en marchant pour éviter les corps qui étaient allongés par terre. Et là, j'ai toujours pas compris. Et là, j'ai croisé le regard d'un jeune homme par terre qui était mort. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas pour blaguer. Je me suis allongé dans la flaque de sang, donc qui était celle du gamin qui était à côté de moi. Et je me suis allongé en tournant le visage vers la gamine qui était encore vivante. On s'est tenu compagnie pendant 2 heures dans cette horreur.
Vers 22h, les forces de l'ordre pénètrent dans l'enceinte du Bataclan pour tenter de neutraliser les terroristes et de faire évacuer les survivants.
On a mis très 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 longtemps avant de réaliser que les 2 boums mains en l'air qu'on entendait, c'était la police. Parce qu'il y a eu pas mal d'essais des terroristes de se faire passer pour la police, donc nous on a fait les morts.
Après l'attaque, les survivants sont mis à l'abri dans des cours d'immeubles aux alentours. La police cherche également à savoir si des terroristes se cachent parmi eux. Vers 5h du matin, Fred rentre chez lui à pied. Quelques jours plus tard, il est convoqué par le 36 quai des Orfèvres, la police judiciaire de Paris, pour déposer plainte.
J'étais en vie, j'étais dans Paris, je prenais le métro, etc. C'était chouette, quoi. J'avais survécu à une attaque terroriste. Du 36, je suis parti à pied, sans me disant « je vais pas regarder mon téléphone pour savoir où je vais essayer de me repérer, j'ai du temps, autant essayer de profiter de la vie et de ce rap qui m'est offert, là. » Et je suis rentré chez moi, j'ai posé les papiers, et j'ai regardé les papiers. Et là, j'ai lu l'intitulé de ma plainte, c'était « assassinat, tentative d'assassinat par entreprise terroriste ». Bah, à chaque fois que je le dis, à chaque fois, ça me remue de l'intérieur. Parce que là, c'est vraiment le moment où j'ai réalisé ce qui s'était passé. C'était pas « j'avais survécu à une attaque terroriste ». Non, on avait tenté de me tuer. Les choses prennent une dimension complètement différente. À ce moment-là, j'étais encore survivant. J'étais encore celui qui était sorti debout, ou un de ceux qui était sorti debout. Après ça, c'était vraiment « on a voulu me tuer ». Waouh, prendre conscience qu'on a voulu vous éliminer, pas en tant que personne, en tant simplement qu'individu. Parce que c'était pas moi nommément qui était visé, c'était les individus qu'on était. Donc en plus, c'était une tentative d'assassinat aveugle. Donc on est nié et renié et complètement nié.
À partir de ce moment-là, les premiers symptômes du stress post-traumatique de Fred s'aggravent. L'attaque le hante au plus profond de sa chair.
juste après le Bataclan, quoi. 2-3 mois après, j'étais en train de dormir, je me suis réveillé avec l'odeur du sang et de la poudre, alors que je n'avais pas conscience au moment même d'avoir senti le sang. Je l'ai retrouvé au cours d'une sieste. Et je me suis réveillé, là, bien entendu, en sueur complète, complètement angoissé. J'essayais quand même de retourner bosser, et je voyais bien que ma concentration était complètement focalisée là-dessus. J'entendais les bruits, j'entendais les râles, j'entendais les cris. Je les revivais au sens réel, vraiment, comme si j'y étais quasiment en permanence.
Comme Fred, beaucoup de survivants du 13 novembre vivent encore avec les stigmates physiques et psychologiques de l'événement. Certains ont d'ailleurs accepté d'être suivis par un groupe transdisciplinaire de neuroscientifiques, historiens, psychologues, qui étudient la mémoire des victimes. C'est le programme 13 novembre, mené par le CNRS et l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Le professeur Francis Eustache est neuroscientifique, et il est l'un des instigateurs de ce programme. Il a notamment étudié la façon dont un traumatisme agit sur le cerveau humain. C'est parce que les séquelles sont inscrites dans le cerveau qu'elles rejaillissent plus tard sur le corps de la victime.
Ce que l'on montre, ce sont des modifications de certaines structures du cerveau, et notamment les régions qui sont fortement impliquées dans la mémoire épisodique, dans la mémoire des souvenirs, et notamment les hippocampes.
L'hippocampe, c'est une structure située au centre du cerveau qui ressemble un peu à l'animal marin. C'est là que se forment les souvenirs.
Alors, donc, modification structurelle au niveau des hippocampes, il y a surtout la modification d'un réseau fonctionnel qui est en lien avec les émotions. Ça veut dire que les émotions sont mal contrôlées, et ce sont ces émotions mal contrôlées et ces régions qui sous-tendent les émotions, ce qu'on appelle les amygdales, hein, c'est l'amande du cerveau en quelque sorte, qui a une activité qui est beaucoup moins bien régulée que chez le sujet qui n'a pas ce trouble de stress post-traumatique.
Les amygdales sont un petit noyau également situé au centre du cerveau qui permet d'identifier et de réagir à une émotion comme la peur. Une personne qui souffre d'un stress post-traumatique va percevoir certains stimuli comme un danger imminent. En clair, on est constamment en hypervigilance. Dans le cas de Fred, qui a été menacé par les balles et les explosions pendant 2 heures, les bruits sourds, comme un pétard ou des feux d'artifice, peuvent le replonger dans un état de panique. Le cerveau se sent menacé et va envoyer des alarmes de danger au corps, car des éléments extérieurs lui rappellent le trauma vécu. Les effets de ces modifications dans le cerveau et dans le corps peuvent durer des mois, voire des années. Ces manifestations du traumatisme, c'est ce que Francis Eustache appelle les intrusions. Le cerveau va recréer les impressions physiques vécues lors du traumatisme.
Alors, les intrusions, ce sont des images. Alors, ce sont soit des images visuelles, mais ça peut être aussi des sons, des odeurs, toutes sortes de manifestations sensorielles, très, très vivaces, très émotionnelles, qui reviennent à la conscience de la personne. Ces intrusions sont différentes d'un souvenir, dans le sens où elles sont vécues par la personne comme étant à nouveau présentes. Vous voyez, un souvenir, il est dans le passé. Je peux évoquer un souvenir avec, là aussi, des impressions fortes, comme si je me retrouvais dans la scène, mais elle appartient au passé. Alors que les intrusions sont à nouveau vécues au présent. Ce qui est évidemment très difficile à vivre pour la personne, surtout quand ces intrusions se trouvent répétées, comme ça, réitérées, dans des tas de circonstances.
On se retrouve bloqué, comme condamné à revivre le même effroi encore et encore. Le traumatisme est comme des braises, ravivées au moindre coup de vent. Le stress post-traumatique entraîne plusieurs symptômes qui ne sont pas toujours les mêmes selon les personnes et qui n'ont pas forcément la même intensité. Mais parmi les stigmates les plus répandus, on retrouve souvent les cauchemars, les insomnies, l'épuisement, le manque de concentration ou l'irritabilité. Ces séquelles sont si difficiles à vivre au quotidien qu'elles entraînent souvent une dépression et parfois des pensées suicidaires.
Les idées noires arrivent quand même parfois assez vite. Il se trouve que ma compagne habitait dans le 11e arrondissement et je suis passé en vélo justement en rentrant chez moi devant les anciens locaux de Charlie sur le boulevard Richard Lenoir, juste au moment où il y a eu cette seconde attaque avec le gars au couteau.
Ce jour-là, c'est le 25 septembre 2020. Un terroriste blesse deux passants à l'arme blanche devant les anciens locaux de Charlie Hebdo.
J'ai vu les voitures de police, etc., tout de suite qui débarquaient. Donc moi, j'étais en train de passer, je ne savais absolument pas de quoi ils retournaient. Mais simplement voir les voitures de police là qui débarquaient, toutes sirènes hurlantes, dans ce quartier-là, le premier truc, c'était « Non, mais je ne vais pas tenir. Mourir, c'est la seule solution. Là, je ne peux plus gérer tout ça. »
Après la morsure, Fred a publié une autre BD qui s'appelle « Conversation avec ma mort ». Il y dessine la tension entre l'envie de se battre pour vivre et la tentation de mourir. Mais on y comprend aussi à quel point le stress post-traumatique est lié à l'expérience physique de sa propre mort.
C'est à partir du moment où un de vos semblables essaye de vous tuer, il vous a déjà tué en fait. Il a déjà nié votre existence.
Le stress post-traumatique est souvent lié à une menace directe d'une autre personne sur soi. Une tentative d'assassinat, une agression physique ou sexuelle. Même si ce n'est pas toujours le cas, selon Francis Eustache.
Disons, l'intensité, elle est liée au fait que ce traumatisme est apporté par une autre personne. Le traumatisme, même s'il est aussi terrible, il va être moins destructeur s'il est lié à une situation sans intentionnalité. Par exemple, un accident ou une catastrophe naturelle. Mais il n'y a pas eu, en tout cas, une intention d'une autre personne de faire du mal, voire d'attenter à la vie de la personne, de la victime.
Dans mon cas, au Mexique, personne n'a pointé d'arme sur moi. Et je me suis longtemps demandé pourquoi je suis aussi affectée. Je me souviens, pendant mon reportage, avoir pensé « Ici, personne ne peut rien faire pour moi. Je ne m'étais jamais sentie aussi exposée. Ce sentiment d'impuissance et de vulnérabilité ne m'ont plus quittée depuis. » Après mon reportage, j'ai vite senti que quelque chose n'allait pas. Les cauchemars, les crises de panique, l'incapacité à me concentrer, la dépression sont apparues. Mais l'idée que je puisse souffrir d'un syndrome du stress post-traumatique ne m'a jamais traversé l'esprit. Pour moi, le profil type des victimes du stress post-traumatique, c'était les soldats revenus du Vietnam ou d'Irak, les vétérans en proie à la terreur qu'on voit dans les films américains. C'est vrai que les grandes découvertes scientifiques liées au stress post-traumatique sont indissociables de l'histoire militaire. Les guerres successives ont fait avancer la recherche médicale.
Il y a eu la Première Guerre mondiale. Il y avait certainement beaucoup de personnes qui souffraient de troubles de stress post-traumatique, mais on les renvoyait au combat. Bon, ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y a eu une guerre très importante, qui est la guerre du Vietnam. Ça a été un combat aussi des vétérans dans les années 60-70 qui demandaient reconnaissance. C'est ce qu'on a appelé dans un premier temps le post-Vietnam syndrome. C'est-à-dire c'était ces vétérans qui n'avaient pas été forcément blessés physiquement, ces soldats. Et une fois rentrés chez eux, dans leur cadre familier, n'arrivaient pas à s'intégrer à nouveau à la société, puis présentaient un certain nombre de symptômes. Et ensuite, ce trouble de stress post-traumatique, on l'a décrit chez des personnes qui étaient victimes de toutes sortes de traumatismes, que ce soit des abus sexuels pendant l'enfance, ou des viols, ou des agressions de toutes sortes.
Le stress post-traumatique peut concerner des personnes aux expériences extrêmement variées. Mais souvent, il est lié à un danger qui menace l'intégrité physique et la vie de la personne.
Sur l'accouchement, il peut y avoir ce sentiment de danger imminent de mort. Alors, lié peut-être à des douleurs.
Katia Kermoel est psychologue spécialiste de la mémoire traumatique. Elle m'a donné l'exemple d'une de ses patientes qui a vécu un accouchement extrêmement difficile.
J'ai accompagné une jeune femme, c'était son premier accouchement. C'est une personne d'une corpulence très moyenne et le bébé était un gros bébé. Le corps médical a décidé d'avoir un accouchement par voie basse naturelle. L'enfant était engagé. C'était trop tard pour faire une césarienne, sauf qu'elle a commencé à avoir une hémorragie Et là, c'est vu partir, quoi. Elle a vu aussi la peur sur le visage des infirmières, des médecins, parce que elle se voyait mourir. Et donc ça, c'est, on est en plein trauma. On est dans des situations où là, la femme va avoir un sentiment d'impuissance énorme face à une douleur énorme avec, si ça se trouve, je vais tuer mon bébé, si ça se trouve, je vais mourir.
Au-delà de la menace physique ou de mort, un stress post-traumatique peut surgir après une expérience d'impuissance et de solitude totale face à une situation. Katia Kermoel m'explique que des personnes peuvent développer un stress post-traumatique suite à un événement a priori banal. C'est le cas de l'une de ses patientes.
Quelqu'un était dans une boutique de bricolage et il y avait une sorte de tapis roulant un peu en pente. Et elle était sur ce tapis roulant et derrière elle, il y avait quelqu'un qui avait un chariot avec plein de matériel de bois, de matériel de bricolage. Et son chariot a lâché, il n'a pas pu tenir son chariot, et le chariot est venu heurter la personne qui était devant. Une situation, on va dire, d'une grande simplicité. La personne n'a pas été hospitalisée, la blessure n'a pas été grave, mais elle est tombée dans un stress post-traumatique, c'est-à-dire des insomnies, des douleurs pas possibles, neurologiques, des douleurs, des maux de tête incroyables. Et en fait, c'était une femme qui élevait seule son enfant. Et elle s'est vue mourir, et elle s'est dit « si je meurs, je laisse un orphelin ». Et donc, vous voyez une situation qui pourrait communément admise comme, excusez-moi le terme un peu courant, ça peut nous arriver, on peut se faire heurter par un vélo, etc. Mais vous voyez, l'histoire de cette femme, c'est qu'elle a eu tellement peur de mourir qu'elle s'est dit « j'aurai un enfant orphelin, et je serai responsable de ça ».
En fait, le traumatisme est propre à chacun, et son apparition est indissociable de l'histoire personnelle. Mais même en sachant cela, encore aujourd'hui, je ressens de la honte à parler de mon reportage et de ses conséquences. On ne m'a ni menacée de mort, ni violentée. Pourquoi je n'arrive pas à encaisser ? Ce sentiment de minimiser ce qui m'est arrivé, c'est quelque chose que je partage avec Florence.
Je me dis que, bon ben, j'ai pas vécu le pire événement possible, j'étais pas si jeune.
Florence, c'est une amie d'amis. Elle a 25 ans. Il y a 2 ans, elle fait la connaissance d'un homme sur une appli de rencontre. Le courant passe bien entre eux, alors ils décident de se voir en vrai.
Moi, j'ai expliqué ce que je souhaitais, donc c'était une relation suivie. Donc lui, il a accepté qu'on se voit dans un bar, donc je me suis sentie plus en confiance. On a continué à parler, et puis c'était un peu imprévu. Un week-end, il est passé chez moi. Bon, on a fini par coucher ensemble.
Au moment de passer à l'acte, Florence ne se sent plus du tout en sécurité, car soudainement, cet homme devient brutal avec elle.
Dès le moment où ça a commencé, c'est comme si son visage avait changé. J'ai vu quelqu'un qui tout à coup devenait très froid, qui a commencé à, je sais pas, se permettre à me parler mal. Et c'était quelqu'un qui était fort physiquement. C'est pas des choses qu'on fait comme ça. Enfin, il faut quand même en parler avant, savoir si l'autre est d'accord. Ça paraît peut-être être rien, mais par exemple, quand on est face à quelqu'un qui aime bien tenir par la gorge, par exemple, quand c'est quelqu'un en qui on a confiance, ça va. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est quand même assez fort, qui commence à faire ça, en fait, ça fait peur, parce que je dis, mais si il se serre fort, juste, c'est fini. Et je sais pas, il y a un truc qui me dit juste, ne le froisse pas. Genre vraiment, j'ose pas trop dire... calmer un peu le jeu, parce que là, je me sens pas super bien dans cette relation-là. Sauf que je vois bien que, en fait, c'est juste là. Il vaut mieux que j'attende que ça passe, parce que... Je sais pas, je le sens pas. Enfin, franchement, je le sens pas. Et j'ai vraiment commencé à pas être très bien, parce que du coup, j'étais de dos. Et il y a un moment où ça y a une petite pause. Et là, je sais pas, il y a eu cette petite pause. Et au moment où ça a recommencé... Là, pour moi, c'était différent. Parce que oui, j'ai insisté au début quand même pour qu'on couche protégé. Il n'était pas trop pour, mais après, il a dit oui.
À ce moment-là, Florence a la conviction que l'homme avec qui elle a un rapport sexuel vient de retirer le préservatif alors qu'elle avait refusé un rapport non protégé. L'acte se termine, mais Florence n'est pas rassurée. Elle va prendre une douche en prenant soin de laisser la porte ouverte.
Il ferme la porte de la salle de bain La lumière s'éteint, j'entends plein de bruit. Enfin, là, je comprends pas. Je sais pas, la lumière se rallume, puis plus rien. Bon, là, je me dis, bon, je commence à avoir vraiment très peur. Je commence à trembler, là. Je me dis, là, je pense qu'il est parti. J'avance comme ça, là, en tremble autant pour ouvrir la porte.
L'homme est parti et Florence ne le reverra plus jamais. Quelques mois plus tard, elle réalise que cette agression sexuelle dont elle a été victime a fait ressurgir un événement traumatique qu'elle a vécu à 17 ans. Florence est avec des amis à une fête pour célébrer la fin des épreuves du bac. Elle passe une partie de la soirée à discuter avec un garçon.
Il y avait plein de tentes autour de la soirée, donc on était par là. En fait, je voulais donc parler, et lui a commencé à me faire faire des avances, vouloir m'embrasser, et à me demander toujours plus. Moi, je lui expliquais donc que je n'étais pas là pour ça. Ça a continué jusqu'à ce qu'il il insiste... suffisamment pour que ça aille jusqu'au viol, en fait.
Florence n'avait jamais mis le mot « viol » sur ce qui lui était arrivé ce soir-là, jusqu'à ce qu'elle subisse cette agression sexuelle avec l'homme rencontré sur l'application.
J'ai l'impression que cette dernière agression-là, ça a été un déclic parce que... Donc, il y a eu plusieurs histoires compliquées, mais à chaque fois, c'était des gens que je connaissais. Et j'avais toujours beaucoup de culpabilité, de honte... un petit peu l'envie de pas trop les afficher.
Les violences sexuelles subies par Florence aboutissent à la constitution d'une mémoire traumatique. Le trauma est ravivé chaque fois qu'une situation lui rappelle le viol dont elle a été victime. Cette blessure psychique entraîne chez Florence un état d'angoisse, de paranoïa et parfois des douleurs physiques.
Enfin, dans mon ancien appartement, je me retrouvais souvent enfermée dans ma salle de bain. Enfin, la clé marche très bien. Mais si je la ferme, et je suis persuadée que quelqu'un m'attend derrière la porte. Et j'ai beau savoir que c'est faux, ça m'est arrivé d'attendre, pareil, peut-être 20 minutes derrière ma porte, alors que j'ai tout fini, hein, je suis prête à aller me coucher, voilà. Sauf que je sais pas, il y a encore la ventilation qui tourne, donc il faut que j'attende qu'elle s'arrête pour pouvoir écouter les bruits dans l'appartement. Et une fois que j'ai écouté, que je suis sûre qu'il n'y a pas le moindre craquement de parquet, parce que s'il y a le moindre craquement, il faut que je reste encore au moins 5 minutes. Donc j'espère vraiment qu'il n'y a pas de bruit. Et une fois que s'il n'y a pas de bruit, je prends courage à deux mains et j'ouvre la porte. j'ai commencé à avoir des douleurs dans les rapports. Soit c'était des douleurs, soit j'arrive pas à ressentir... de plaisir, physiquement, j'arrive pas à ressentir des choses. J'ai besoin de me sentir tellement en sécurité et respectée que ça arrive assez peu, finalement.
Pourtant, Florence a toujours du mal à se sentir légitime à parler de stress post-traumatique. Mais pourquoi certaines victimes minimisent leur expérience du trauma et leur souffrance ?
Je pense quand il y a vraiment beaucoup de honte et de culpabilité. Et quand on se dit « Ah oui, mais c'est de ma faute », j'ai pas bien fait les choses. Et donc là, il y a un profond sentiment de honte aussi. J'aurais dû. Tout ça, c'est de ma faute, donc j'ai pas à me plaindre. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait d'être là-bas? Ou pourquoi j'ai pas fait ci? Ou pourquoi j'ai pas fait ça? Et donc, je me sens responsable. Et on se dit, j'ai eu ce que je méritais. J'aurais dû être plus prudente, j'aurais dû être plus vigilant, etc., etc. Je n'ai pas à me plaindre. Souvent, on va essayer quand même de minimiser les choses. Par exemple, moi, j'ai des clientes qui m'ont dit « Oui, bon, j'ai été agressée sexuellement, mais bon, c'était pas grave parce que j'ai pas été violée. » Et pourtant, les symptômes sont là. Et moi, je leur dis, des fois, vous savez, une agression sexuelle, c'est pareil qu'un viol.
Accepter un traumatisme, c'est aussi, en quelque sorte, décider d'y faire face. Et souvent, ça a l'air d'être une montagne. Et ça fait peur. Un autre frein, c'est peut-être celui de la crainte de ne pas recevoir une réponse à la hauteur si on parle de son traumatisme. Je pense aux personnes qui portent plainte pour viol ou agression sexuelle et qui s'exposent à ce qu'on leur jette au visage qu'elles se sont mises elles-mêmes en danger. Aux États-Unis, le syndrome du stress post-traumatique est souvent appelé « the hidden wound », la blessure cachée. Invisible à l'œil nu, cette séquelle, contrairement aux blessures physiques, n'est pas toujours comprise par l'entourage ni par la société. Quand j'ai compris que j'avais développé les symptômes du stress post-traumatique suite à mon reportage au Mexique, je me suis tournée vers la thérapie EMDR. Ça vient de l'anglais. Eye Movement Desensitization and Reprocessing. En français, la désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. C'est une thérapie que ma mère, psychologue, pratique depuis plusieurs années sur des patients ayant vécu des lourds traumatismes. La psychologue Katia Kermoel la pratique elle aussi. Le MDR, c'est donc une thérapie basée sur la stimulation bilatérale, qui peut être visuelle, tactile ou sonore. Bon, j'imagine que comme ça, c'est pas évident de visualiser la chose. Concrètement, ça se passe comment ? On demande au patient de parler de l'événement traumatique. Pendant ce temps, le thérapeute prend un bâton ou un crayon et le bouge de gauche à droite devant les yeux du patient qui doit le suivre du regard. Une autre technique, c'est que le patient tapote en alternant gauche et droite sur ses genoux ou ses épaules. Cette stimulation un peu hypnotique permet d'accéder plus directement à ses émotions. Pendant les sessions, les émotions et les sensations physiques qui surgissent sont souvent très fortes. En général, on pleure beaucoup. Francis Eustache nous expliquait tout à l'heure que le traumatisme perturbait le processus de la mémoire. Eh bien, l'EMDR permet de reprocesser en quelque sorte le traumatisme. Pour le dire simplement, de le ranger dans la boîte des souvenirs pour qu'il soit moins perturbant pour la personne. Cette pratique peut avoir l'air un peu expérimentale, mais il s'agit bien d'une méthode dont l'efficacité a été prouvée. Elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé pour apaiser le syndrome du stress post-traumatique. Katia Kermoel m'explique qu'elle a été développée aux États-Unis à la fin des années 80 par la psychologue Francine Shapiro, qui avait beaucoup étudié les vétérans du Vietnam.
Il y a une histoire qui dit qu'elle était dans un jardin public et elle voyait les oiseaux passer et comme s'il y avait un côté hypnotique. Et donc, ce côté hypnotique fait que toutes les défenses que des fois on peut mettre en place par le biais de l'intellectualisation, en fait, eh bien finalement laisser paraître tout un ensemble d'émotions. Et donc, elle a utilisé, introduit ces méthodes, surtout d'hypnose, pour faciliter l'accès aux événements et à la connexion émotionnelle plutôt qu'à la connexion intellectuelle et rationnelle de l'individu. Et je crois que c'est ça l'énorme différence avec les autres thérapies de type classique. Et on va prendre en considération en EMDR vraiment ce qu'on ressent dans le corps. Parce que le trauma a une expression corporelle très très forte.
L'EMDR est une ressource possible. Mais il existe aussi les autres thérapies de la parole, des thérapies sensorimotrices qui se concentrent sur le corps, là où se niche le traumatisme, et puis les médicaments, les anxiolytiques, les antidépresseurs, qui permettent de tenir quand la souffrance est trop grande et d'apaiser certains symptômes, même s'ils ne traitent pas l'origine du problème. Et puis, il y a les méthodes propres à chacun, toutes les manières qu'on trouve pour transformer, pour transcender le traumatisme. Moi, je crois que c'est ce podcast. Parfois, j'ai l'impression qu'on m'a volé du temps. Je ne sais pas quand je redeviendrai celle que j'étais avant, ni si je retrouverai totalement mon insouciance. Mais malgré l'énorme difficulté que j'ai à travailler, à me concentrer, j'avais envie de donner du sens à cette expérience. Que ça serve à quelque chose. Et mon métier, c'est le journalisme. Expliquer, recueillir des histoires et les transmettre. Informer sur ce qu'est le stress post-traumatique. Fred, ce qu'il sait faire, c'est dessiner.
Le dessin, c'est ma thérapie, c'est ce qui me permet de mettre des concepts sur ce que je ressens. Donc, il y a un travail inconscient qui est fait, il y a des notions qui sortent comme ça du jour au lendemain, d'un moment à l'autre. C'est vital. La dernière fois, j'étais, il y a trois jours, j'étais à la salle de bain et tout d'un coup, j'ai eu une image en tête de moi marchant dans une espèce de tempête de sable qui, en fait, me lacérait et c'était mon combat avec l'extérieur. J'ai tout de suite posé ce dessin pour pas l'oublier. C'est incroyable d'avoir cette chance-là d'expression qui me fait avancer. Il y a plus du tout de distinguo entre ma vie et mon dessin. Mon dessin, c'est ma vie. C'est par mon dessin que je suis encore en vie, très clairement.
En dessinant son stress post-traumatique, il contribue également à la connaissance du trouble. Il informe et parle aux autres victimes. Ni Fred, ni Florence n'imaginent pour l'instant une guérison totale, mais plutôt un apaisement. Tous les deux m'ont parlé de l'acceptation de cette nouvelle réalité, de la vie, avec le syndrome du stress post-traumatique.
Comme si on avait notre espace. On vit dans cet espace, c'est chez nous. Et un jour, quelqu'un se permet de rentrer et de saccager cet espace. Et une fois que cette personne est partie, nous, on ne peut pas oublier. Mais en fait, on vit là. Donc, la seule issue possible, la plus rapide, c'est de penser d'avoir à mourir et réfléchir à une autre solution qui va être d'apprendre à aimer cet espace comme ça. Et de savoir aussi que peut-être qu'on sait qu'en fait, il n'est pas à 100% protégé. Il faut accepter que cet espace ne sera plus comme avant. Mais je pense qu'on peut se le réapproprier, l'aimer comme ça, le redécorer, voilà. Mais on peut l'aimer comme ça. Et il faut quand même faire le deuil aussi de ce que c'était cet espace avant.
Quand Florence m'expliquait ce processus, je repensais à une chose que m'avait dit mon père. Si un jour tu te fais emporter par les vagues, n'essaye pas de nager vers la plage. Tu vas t'épuiser et c'est ça qui est dangereux. Laisse-toi porter. À un moment, elles vont te ramener sur la rive. En préparant ce podcast, j'ai échangé avec un ami qui a été dans l'armée et qui a vu de près le stress post-traumatique. Je lui parlais de l'écriture de cet épisode. Un peu dépité, je lui disais « Je ne peux pas finir en disant qu'on ne guérit pas ». Il m'a dit que tout ce que je pouvais faire, c'était d'essayer de générer de l'empathie. En racontant qu'il y a des gens qui, malgré tous leurs efforts, malgré toutes les thérapies essayées, malgré les médicaments, malgré les aides financières, malgré l'amour de leurs proches, il y a des gens qui continuent de porter un désespoir, comme une fiole d'encre très fragile, qui au moindre sursaut peut éclater et éclabousser leur vie tout entière. Et pour eux, j'ose espérer que l'empathie, c'est une petite pierre sur le chemin de l'apaisement.
Vous venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Antonella Francini. Elle vous faisait entendre les témoignages de Fred et Florence et les explications de Francis Eustache et Katia Kermoil. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Maud Benakcha est la chargée de production d'Émotion. Camille Bichler était en charge de la supervision éditoriale de cet épisode, accompagnée de Capucine Rouault. Marine Kéméré en a fait la réalisation et Ricardo Katsuya Ramirez Garcia s'est occupé de la prise de son. Jean-Baptiste Aubonnet était au mix et c'est Nicolas Degélis qui a composé le générique d'Émotion. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur les situations de stress, je vous recommande l'écoute de L'angoisse et l'anxiété, peut-on bien vivre avec ? Un épisode d'Émotion signé Cyrielle Bedu. Émotion est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires, et surtout, en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts. Travail en cours, passage, injustice, fracas, une autre histoire, entre ou le book club. Bonne écoute et à bientôt.
Bonjour, c'est Zoé de Louis et j'aimerais vous parler du podcast Symptômes, le podcast d'enquête médicale de RTL dans lequel des médecins se confient sur les cas les plus marquants de leur carrière. Chaque histoire dévoile toutes les phases émotionnelles, psychiques, de doute, d'angoisse, d'urgence, d'attente, mais aussi les étapes de recherche, l'écoute de soi et du patient. Bref, si vous cherchez un podcast, écoutez Symptômes, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be.
Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.